Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons continuer à contempler la création faite par Dieu. C'est une véritable merveille, mais avant d'entrer dans les belles considérations du Concile de Trente et de Mgr Lefèvre sur l'amour de Dieu qui se répand, il est nécessaire, pour que ce catéchisme soit complet, de vous rappeler que créer, c'est faire à partir de rien. Il n'y avait rien avant que Dieu crée. Les conséquences, nous les avons vues la dernière fois, c'est-à-dire que tout et chacun des êtres qui existent ont été créés. Il n'existe rien qui n'ait été créé par Dieu. Et non seulement tout et chacun des êtres créés, mais également tout ce qui les constitue, la nature avec ses particularités, l'existence, les actions, les opérations, bref, tout. Et c'est cela que signifie l'affirmation que Dieu a créé à partir de rien, puisqu'il a tout créé, ben il n'y avait rien. Et il est nécessaire que les choses soient créées, parce que sinon, elles ne peuvent pas être. Tout cela, nous l'avons vu dans le sermon de la semaine dernière. Il faut que je vous précise, parce que c'est important, que seul Dieu peut créer, car seul Dieu peut faire de l'être là où il n'y avait rien. Les créatures ne peuvent pas faire à partir de rien, mais à partir de quelque chose. Et enfin, je dois vous rappeler que c'est la Trinité tout entière qui crée dans un seul et même acte. Dieu, les trois personnes divines qui sont un seul Dieu, créent toutes les trois ensemble. On attribue la création au Père, non pas parce qu'il créerait sans le Fils ou sans le Saint-Esprit, mais pour nous faire comprendre ce qu'est la puissance du Père. On attribue la création au Fils, c'est-à-dire au Verbe, non pas parce qu'il créerait sans le Père ou sans le Saint-Esprit, mais pour nous faire comprendre ce qu'est la sagesse du Verbe, et de même on attribue la création au Saint-Esprit, non pas parce qu'il aurait créé sans le Père et le Fils, mais pour nous faire comprendre ce qu'est la bonté, l'amour dans le Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire que vous approfondissiez beaucoup ces questions. Il suffit que vous admettiez la révélation qui nous dit toutes ces vérités que je viens de vous rappeler. Au contraire, il faut que nous nous attardions sur le fait que Dieu crée par bonté et pour communiquer sa bonté et voir comment nous entrons dans la bonté de Dieu. Je vous rappelle ce texte de Mgr Lefèvre dans son itinéraire spirituel. Si nous passons de cette charité éternelle, il vient de contempler la Sainte Trinité. Si nous passons de cette charité éternelle à la diffusion de cette charité dans les créatures, nous aurons tôt fait de découvrir dans toutes les créatures la marque de la charité divine. Dieu étant charité, peut-il communiquer autre chose que de la charité ? Et le catéchisme du Concile de Trente affirme « Le seul motif qui a déterminé Dieu à l'œuvre de la création, c'est sa bonté qu'il voulait répandre sur les êtres qu'il allait produire. Comme il n'a obéi qu'à sa bonté quand il a fait tout ce qu'il a voulu, de même pour former l'univers, il n'a pris ni modèle ni dessein qui ne fût en lui. » Et j'interprète les paroles du Concile de Trente pour que vous les compreniez mieux. C'est en considérant au-dedans de lui la bonté et en la reproduisant, pour ainsi dire, que l'ouvrier par excellence, le bon Dieu, le Créateur, avec cette sagesse et cette puissance suprême qui lui sont propres, a créé, dès le commencement, l'universalité des choses qui existent. Ce qui est important là, c'est que le Concile de Trente nous dit que Dieu a regardé la bonté qui est en lui pour la reproduire dans les créatures. Eh bien, cela comporte deux choses, pas une, mais deux. Premièrement, Dieu répand sa bonté. Deuxièmement, toutes les créatures sont faites pour aimer la bonté de Dieu. Dieu ne communique pas ses trésors seulement pour que les créatures en jouissent, mais pour que, comme lui, elles aiment. Monseigneur Lefebvre l'affirme avec des paroles qui sont très denses et peut-être pas toujours faciles à comprendre ou à pénétrer, parce que justement on est là à la racine des choses. Il poursuit son texte en disant que la marque de la charité dans les créatures se découvre dans l'orientation vers la fin. Or, vous vous rappelez que la fin, c'est la perfection, c'est ce qui est bien, donc l'orientation vers le bien. Chaque créature est constituée en vue de sa fin, c'est-à-dire d'un bien. Et c'est cette fin qui est inscrite dans la nature, et de même dans la surnature quand il s'agit de la grâce. Et c'est cette fin qui, Aristote l'avait découvert, cela, il dit la nature c'est la fin. Si on traduit cela en termes plus spirituels, ça veut dire que la nature c'est la perfection. Une nature est faite pour une perfection. Et cette perfection vient de Dieu. Et donc une nature est faite pour aimer, comme Dieu aime, le bien qui est en Dieu. Je vais vous donner des exemples. Voyez le père de famille qui communique à ses enfants des perfections, des trésors. Il le leur communique pas seulement comme un bien dont ils peuvent jouir, mais pour qu'ils aiment à leur tour cette perfection et qu'ils la communiquent. C'est la même chose chez le professeur, ou ça devrait être la même chose, disons. En tout cas, c'est la définition du professeur. Il a des connaissances théoriques ou pratiques, peu importe, et il les communique pas seulement pour que le disciple en jouisse personnellement, mais également pour qu'il s'enthousiasme pour ses connaissances, qu'il les mette en œuvre lui-même, qu'il les mette en pratique et qu'il les communique. Quand un professeur de médecine enseigne la médecine aux étudiants, c'est pas seulement pour qu'ils connaissent la médecine, mais pour qu'ils soignent. Ce devrait être la même chose pour les gouvernants. Lorsqu'un gouvernant gouverne le pays, ce n'est pas seulement pour donner des biens au sujet. Ça, c'était ce qu'on imaginait au XVIIIe siècle particulièrement. Le pauvre roi Louis XVI a été éduqué comme cela. Évidemment, il fut un roi bienfaisant parce que on l'avait persuadé que plus les gens seraient riches, plus les gens posséderaient de biens sur la terre, en paix, et plus ils seraient heureux. Il faudra la révolution pour qu'il découvre son erreur, et c'est pourquoi il comprit, notamment avec l'échec de la fuite de Varennes, qu'il avait voulu cet échec, que Dieu lui demandait de se sacrifier pour son peuple. Enfin, c'est une autre histoire. Un gouvernant ne donne pas seulement des richesses, de la paix, du bien-être au peuple, il fait en sorte que le peuple s'enthousiasme pour le bien qui est en Dieu et communique ce bien. C'est encore plus net chez l'ami. Qu'est-ce qu'un ami veut? Il ne veut pas seulement communiquer à son ami, donner à son ami des trésors qui sont en lui. Et il veut qu'ils en jouissent tous les deux ensemble, qu'ils s'enthousiasment tous les deux ensemble pour ces choses qui les dépassent, qui sont au-dessus d'eux. Eh bien, la même chose. Le bon Dieu est un ami qui ne donne pas pour que nous jouissions seulement des biens qu'il nous donne, mais pour que, avec lui, nous nous enthousiasmions pour ce bien qui est en lui et qui est au-dessus de nous, qui n'est pas au-dessus de Dieu, bien entendu. Et là, on a une amitié spéciale entre Dieu et les hommes, une amitié entre celui qui est tout-puissant et infiniment riche, avec ceux qui n'ont rien, mais que justement il crée pour pouvoir non seulement communiquer ses richesses, mais les partager avec eux, et faire en sorte que ceux qui les ont reçus s'enthousiasment avec Dieu et ressemblent à Dieu pour aimer Dieu comme Dieu s'aime lui-même. Et le communiquer, bien entendu, c'est tout l'apostolat des apôtres. Ce sont des choses qu'il faut méditer. Il faut nous mettre face à Dieu et puis voir ce que Dieu fait quand il crée. Évidemment, c'est beaucoup plus facile lorsque nous contemplons Jésus-Christ qui vient dans ce monde et qui nous communique la charité. Pourquoi Mgr Lefèvre a-t-il cependant tant insisté sur la création, puisqu'il y consacre plusieurs pages d'un petit livre qui est très bref? Il ira d'ailleurs presque aussitôt après à l'étude de Jésus-Christ et de la rédemption et de la croix. Parce qu'il faut bien que nous comprenions que cet amour de Dieu est inscrit dans notre nature. L'homme a été créé pour honorer, louer et servir Dieu, et par ce moyen sauver son âme, c'est-à-dire vivre dans l'intimité de Dieu. Et il ne faudrait surtout pas croire que cet amour de Dieu, ce retour à l'amour de Dieu, soit uniquement le fait des chrétiens, des catholiques, de ceux qui ont la foi. Si on n'a pas compris cela, alors la vie spirituelle, la vie chrétienne, est une vie sans fondement. Et je vous montrerai tout à l'heure, avec les mauvaises conséquences, ce que cela peut être une vie sans fondement. Mgr Lefèvre poursuit, « La diffusion de la charité sera le moteur de toute activité dans la création. » L'activité inconsciente, d'abord, des animaux, même des pierres d'ailleurs, même des végétaux. Et c'est pourquoi, là c'est moi qui le dis, ce n'est plus Mgr Lefèvre, c'est pourquoi l'étude de la nature est passionnante. Je vous conseille la lecture de Fabre, l'entomologiste. Mais on vient de m'offrir il y a peu un livre sur les oiseaux migrateurs. C'est absolument merveilleux. Pas seulement de voir ce que Dieu a fait dans la nature de l'oiseau. Vous êtes-vous posé la question du coucou? Le coucou est un oiseau migrateur. Les parents coucous pondent leurs œufs dans le nid d'un autre oiseau. Et l'autre oiseau va élever, couver d'abord, puis élever les œufs du coucou à la place de ses œufs propres. Puis quand les tout petits coucous vont sortir, ils vont balancer par-dessus le nid les œufs des autres oiseaux, et c'est eux qui vont profiter de tous les soins de leurs parents usurpés, si je puis dire. Bien, tout ça vous le savez, mes bien chers frères, les enfants le savent. Seulement, les parents coucou, il y a longtemps qu'ils sont partis, puisqu'ils ont laissé leur progéniture entre les pattes d'un autre. Alors, comment les petits coucous vont-ils savoir la route qu'ils doivent prendre, la destination qu'ils doivent atteindre pour revenir là où sont tous les coucous adultes pendant l'hiver? Eh bien, on vient de découvrir que le petit coucou observe dans son nid, observe les étoiles dans le ciel, la carte du ciel, et même que lui et d'autres oiseaux ont une espèce de boussole dans la rétine qui réagit au magnétisme terrestre, et qu'avec cette carte du ciel plus la boussole, ils peuvent se diriger pour revenir là où ils doivent aller. Mais il n'y a pas que cela. Cela, c'est ce que le bon Dieu a fait. Mais comment le coucou réagit-il? Eh bien, il réagit en répondant à cette merveille de Dieu parce que la migration est la nécessité de la survie de l'espèce. Le coucou ne s'en rend pas compte, mais il est tout entier dévoué à la survie de l'espèce. Quand il est grand et que l'hiver arrive, vite, 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 partons, allons au chaud, parce que sinon nous allons tous mourir, et il n'y aura plus de coucou sur la terre, et ce sera un drame qu'il n'y ait plus de coucou, parce que comment les enfants vont-ils admirer les œuvres de Dieu? Alors le petit coucou ne se dit pas « je profite de la vie, je reste dans le nid, je profite des parents usurpés, je reste bien au chaud, et puis je finis par me faire surprendre par l'hiver, et puis fini de la merveille des coucous. » Eh bien, vous avez combien d'enfants aujourd'hui qui sont que des demi-coucous ? Ils sont des demi-coucous parce qu'ils profitent du nid, ils balancent par-dessus le nid tout ce qui les gêne, mais ils n'en profitent pas pour rejoindre le lieu, pour se mettre au service de la survie de l'espèce. Après moi, que le monde disparaisse, ça m'est égal, je ne vais pas voir plus loin que ma petite destinée. S'il n'y avait que les enfants. Eh bien, je crois que j'ai à peine besoin de vous dire, après avoir pris l'exemple du coucou, comme La Fontaine prenait l'exemple des animaux, j'ai à peine besoin de vous dire ce que dit Mgr Lefebvre, que l'intelligence et la volonté des esprits devront concourir à l'obtention de la fin, et même par des actes libres. Et Mgr Lefebvre nous rappelle que notre liberté, qui est un chef-d'œuvre bien plus grand que la contemplation de la carte du ciel dans l'œil du coucou et puis la boussole. Ce chef-d'œuvre de la liberté nous a été donné, non pas seulement pour la survie de l'espèce, mais pour que nous entrions dans l'amour de Dieu, que nous aimions Dieu comme Dieu nous aime. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Notre Seigneur ne dit pas « aimez ce que je vous ai donné », il dit « demeurez dans mon amour ». On voit là, comme je vous le disais tout à l'heure, la grande unité dans l'action de Dieu. Et si on ne voit pas cette unité, alors la vie chrétienne est comme du plaquage. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui des jeunes qui ne comprennent plus la vie chrétienne, parce qu'ils se mettent dans la tête, ou on leur a mis dans la tête, ou on a agi sans avoir besoin de leur expliquer, comme des coucous qui sont dans le nid, mais qui après ça ne sont pas destinés à se donner le mal de migrer. Alors ils ne comprennent plus, les hommes d'aujourd'hui ne comprennent plus. Je suis un homme, la définition de l'homme c'est de profiter de la vie, et le chrétien, sa définition c'est de se sacrifier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, le chrétien n'est pas un homme. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? Non, la définition de l'homme, c'est d'être orienté vers Dieu, et plus la créature est élevée, plus elle s'oriente consciemment vers Dieu, et l'homme en tant que tel s'oriente avec sa liberté, et puis le chrétien se réoriente, parce qu'il s'était désorienté par le péché, se réoriente à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge et des saints, bien entendu. Alors voilà pourquoi l'Écriture sainte nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Parce que la plus parfaite ressemblance de Dieu, c'est d'aimer. C'est là qu'est la source de la paternité. C'est là que se trouve la source de tout dévouement, de tout apostolat, en un mot, de toute amitié. Il faut que je termine avec les erreurs modernes. Ce n'est pas que ce soit bien agréable, mais c'est nécessaire parce que le prêtre qui n'enseignerait que la vérité, ne dénoncerait pas les erreurs, ne serait pas un bon pasteur. Surtout quand le loup s'est recouvert d'une peau de brebis. Alors très brièvement, qu'est-ce que Vatican II ? Vatican II justifie de ne pas vivre dans l'amour de Dieu, sous prétexte de la dignité humaine. Autrement dit, Vatican II affirme que l'homme est digne en lui-même et non pas par son orientation vers Dieu. Autrement dit, il profite des biens de Dieu, si encore ce sont des biens divins, il profite des biens de Dieu, il ne rend rien, il ne se réoriente à rien. C'est cela, Vatican II. C'est pour ça que c'est gravissime. Autre erreur, l'éducation moderne, qui consiste à laisser l'enfant s'épanouir dans ce qu'il trouve en lui, comme si l'épanouissement était en nous, et non pas dans le retour à aimer comme Dieu ce que Dieu aime. Le résultat, on aboutit au caprice, bien entendu. Pendant ce temps-là, il y en a un qui se frotte les mains, c'est le démon. parce que le démon sait que tout coucou qui ne migre pas est un coucou perdu, et il sait que si il arrive à obtenir que tous les coucous restent dans les pays du Nord, ou en France ou ailleurs, et ne redescendent pas dans les pays chauds, la race coucou est perdue, et il sait que si la race coucou est perdue, eh bien tout le bel exemple que le bon Dieu voulait, bon, les coucous ne sont que les coucous, mais enfin quand même, hein, quand même. Quant à Pâques, nous entendons le chant du coucou pour la première fois, nous savons que le bon Dieu a quelque chose à nous dire. Eh bien, le démon sait que quand il a réussi à faire des gens qui, soi-disant, s'épanouissent en eux-mêmes, il a fait des capricieux qui ne savent que détruire, et que grâce à cela, lui, ou plutôt à cause de cela, le démon arrivera, pense-t-il, à détruire l'œuvre de Dieu. Le remède, les œuvres de miséricorde. Lorsque saint Thomas étudie la charité, qui est l'aboutissement de l'étude de l'œuvre de Dieu, juste aussitôt, il étudie les œuvres de miséricorde, avant même de passer à toutes les autres vertus. Parce que les œuvres de miséricorde sont ce qui ressemble plus à la création. Celui qui est riche se penche sur la misère, non seulement pour donner ses richesses, mais pour restaurer le fonctionnement, si je puis dire, de celui sur lequel il se penche. Je vous ai dit cela pour le médecin. Le médecin ne rend pas seulement la santé, parce que imaginez un médecin, il soigne son malade, et son malade en profite pour rester au lit ou ne rien faire. Le médecin qui soignerait un jeune, et ce jeune lui dirait « Merci, docteur, maintenant je vais pouvoir profiter de la vie ». Le médecin lui dirait « Mais je ne t'ai pas rendu la santé pour que tu profites de la vie, je t'ai rendu la santé pour que tu te dévoues ». Que Dieu vous bénisse, mes bien chers frères, que la très sainte Vierge vous donne ses entrailles de miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.